Une bonne nouvelle d'après Matthieu, lecture suivie de l'évangile de saint Matthieu dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Oui, la catastrophe qui va s'abattre sur Bethléem était prévisible. L'horreur dépasse toute possibilité d'expression. Massacre. C'est-à-dire suppression de l'avenir, c'est-à-dire se protéger contre la vie, en fait, alors qu'on est mort. Les troupes commandées qui vont descendre de Jérusalem et des casernes qui entourent la ville sur le petit village de Bethléem qui va se réveiller, rejoint tous les massacres de toute l'histoire. C'est au petit jour, quand les gens sont à peine sortis du lit ou qu'ils ouvrent à peine les yeux et que le coq a chanté, que tout s'abat. La signification en est très lourde. Fallait-il que tant de bébés, de petits-enfants soient massacrés pour qu'on s'en souvienne, j'allais dire, et qu'on considère d'autant plus miraculeux le fait que l'enfant, Jésus, lui, est échappé. Quel est le rapport entre le malheur des uns et la sauvegarde des autres? C'est un mystère. C'est le mystère quotidien de ceux qui se font hacher menu par l'histoire qui marche et ceux qu'un destin exceptionnel protège, mais qui finiront eux aussi parce que la pureté, la joie, l'avenir sont trop insupportables pour les hommes. Jésus finira lui aussi sur une croix. Il finira pas. Il passera par une croix. Et tous les enfants morts alors qu'ils fuyaient, eux aussi le rejoindront, disent ceux qui croient à l'avenir, dans la résurrection. Écoutons cet horrible épisode.
La route descend de Jérusalem à Bethléem. Ils atteignirent leur but en moins de 2 heures, se demandant à qui s'adresser. Mais l'astre s'était immobilisé au-dessus d'une bergerie, adossé à un repli du terrain. Habitués à obéir au ciel, les 3 mages firent stopper les caravanes et mirent pied à terre. Chacun en fit autant, et tandis que les chameliers emmenaient les montures s'abreuver, les 3 mages, aidés de leurs pages, déballèrent leurs présents. Melchior avait apporté une petite cassette d'or, le plus fin. Il voulait ainsi rendre hommage à un roi. Et l'or est le seul cadeau dont un roi puisse se satisfaire. Balthazar avait apporté un petit coffret d'encens, le plus subtil. Il voulait rendre ainsi hommage à un dieu, et l'encens est une marque d'adoration pour Dieu seul. Gaspard avait apporté une cassolette de myrrhe, la plus parfumée. Il voulait rendre ainsi hommage à l'éternité. Et la myrrhe est le baume le plus puissant pour conserver les corps. Tous les 3 ensemble, ils s'approchèrent de la maison et ils virent alors l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombèrent à genoux et se prosternèrent longuement devant lui. Puis, Ils lui offrirent chacun son trésor en disant quelques mots dans les langues que Marie ne comprenait pas. Marie, d'ailleurs, ne comprenait absolument rien. Dans sa surprise de voir trois princes, richement habillés, se prosterner avec autant de simplicité et d'évidence devant elle et son fils, qu'elle était en train d'allaiter, dans un misérable abri pour le bétail. Il faut avouer que le spectacle était peu ordinaire, et que la suite des mages et des chameliers et le conducteur de la caravane s'approchaient eux aussi de la bergerie, intrigués et stupéfaits de ce qu'ils voyaient. Des savants astronomes, à genoux dans la poussière d'un enclos de chèvres, devant un bébé à qui une femme encore adolescente donnait le sein. Et pourtant, insensiblement, ils tombèrent eux aussi à genoux, les uns après les autres, sans le vouloir, comme s'ils comprenaient qu'il se passait quelque chose, et qu'au-delà des apparences de cette pauvreté, se jouait un événement d'une portée universelle. Bientôt, toute la troupe fut subjuguée. Mages, chameliers, pages, chacun dans le silence de midi, honorait le roi, adorait le dieu et contemplait l'éternité sur la terre. Le temps semblait s'être arrêté. Combien dura la scène ? Puis l'enfant pleura et le charme fut rompu. On se releva et, à reculons, chacun rejoignit sa monture. Non loin de là se trouvait le champ des bergers. On décida d'établir le campement pour la nuit. Vous pensez bien que personne n'arriva à dormir pendant la nuit qui suivit. D'ailleurs, cette nuit fut vraiment extraordinaire. Il se passait décidément des choses extrêmement étranges sur cette terre de Judée. En échangeant leurs sentiments sur l'aventure qui les avait arrachés à leur palais tranquille, les mages arrivèrent à la conclusion qu'Hérode nourrissait quelques plans peu honnêtes à l'égard de cet enfant roi. Sa nervosité, sa curiosité et sa fébrilité les avaient mis mal à l'aise. Ils décidèrent de rentrer directement chez eux, sans repasser par Jérusalem. Joseph, de son côté, fit un rêve. Ou plus exactement, il eut un songe, tandis qu'il était allongé sur sa natte, à côté de Marie qui dormait paisiblement. Une voix lui répétait avec insistance « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à nouvel ordre. Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph avait beau se tourner, se retourner sur sa couche, la même voix lui répétait la même chose sans lui laisser de répit. Joseph commençait à avoir l'habitude de ses bonitions et de ses prémonitions, avertissements et prévisions. Au bout d'un moment, il n'y tint plus. Il réveilla Marie, lui dit de préparer l'enfant, ramassa leurs maigres affaires, fit quelques provisions de lait, de fromage et de galettes et détacha leur petite âne. Il y installa Marie et l'enfant, ainsi que les bagages, jeta un dernier regard sur la bergerie qui lui avait servi d'abri, de maternité et de maison, et referma la barrière derrière eux. Quelle ne fut pas leur surprise de voir quelques centaines de mètres d'eux, les caravanes des mages, s'ébranler elles aussi pour le voyage du retour. En quelques instants, tout était devenu calme, tous les voyageurs avaient pris leur direction respective. Et Bethléem pensa retomber dans le silence de l'histoire. Mais voilà, pour Bethléem, l'histoire avait réservé son plein d'horreur. Quand Hérode, en effet, s'aperçut qu'il avait été joué par les mages, il entra dans une fureur sanguinaire, enragé qu'il était d'apprendre qu'il avait un rival sans savoir qui c'était.
Eh oui, encore une étape avant d'arriver au massacre lui-même. Il fallait assister à la beauté, à la simplicité, à la sérénité de la rencontre entre ces trois savants chenue, blanchie sous le harnais, et cet enfant, que rien ne distingue des autres enfants. C'est là la différence entre ceux qui ont le cœur fermé et ceux qui ont le cœur ouvert. Parce qu'ils voient au-delà des apparences l'essentiel des choses. Leurs études n'est plus un empêchement. Ils n'ont pas les yeux sur leurs livres quand ils sont devant l'enfant. Ils ont les yeux sur quelqu'un, ils le regardent. Ils l'observent, ils regardent Marie qui donne le sein à Jésus. Ils regardent Joseph qui est au service de cette femme et de cet enfant. Et la pauvreté même du lieu est un signe pour eux, parce que ils viennent de quitter quelqu'un donc que le pouvoir a corrompu, et ils sont devant quelqu'un, encore un enfant, donc une promesse d'avenir qui n'a aucun pouvoir matériel en tout cas, qui en est réduit, si on peut dire, au seul pouvoir qu'il habite et qui va grandir avec lui. Alors il présente dans le grand silence, souvenez-vous le film de Pasolini, dans le plus grand silence, il dépose au pied de Marie les présents qu'ils ont apportés, qui sont eux aussi symboliques comme les chiffres de notre premier épisode, l'or, l'encens, la myrrhe, comme le texte le dit, il s'agit d'honorer un roi, il s'agit d'adorer un dieu, il s'agit de célébrer l'éternité. Et alors, Pasolini, ici, a une idée merveilleuse, si vous revoyez le film une fois. Il fait tendre l'enfant par Marie à l'un des rois. Et le roi qui prend cet enfant, ce bébé, qui gigote un peu dans ses mains, a un visage transfiguré. Transfiguré de simplicité, d'évidence, d'immédiateté. Il tient dans ses mains quelqu'un, il tient ici, un avenir, il a conscience, et ses deux confrères avec lui, qu'un événement ici se passe où on transmet à l'univers entier ce don de Dieu. Car c'est cela l'épiphanie, c'est cela l'épisode des rois mages, c'est que le monde entier, l'univers auquel est adjointe le ciel, les galaxies, les mondes, tout l'univers reçoit ce cadeau, qui est le Fils de Dieu donné à tous les hommes et à tous ceux qui vivent, quel que soit l'endroit, planète, galaxie, monde solaire. Les rois mages sont là pour représenter tout cela. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se retirent. Vous l'avez vu, ils vont dormir pour la nuit et dès le lendemain, ils préfèrent retourner par un autre chemin, car, c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante.
C'était une bonne nouvelle selon Matthieu, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.